RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, l'Intégral Tour au sommet des Pyrénées, au sommet du plateau de Baïme, mais les Pyrénées sont désormais derrière les coureurs du peloton qui regardent devant, qui regardent la plaine et surtout qui regardent les Alpes qui les attendent dans quelques jours, la deuxième grande partie des montagnes de ce Tour de France 2015. On ne peut pas dire que les Pyrénées aient franchement fait changer les choses. Chris Froome avait abordé les premiers cols des Pyrénées avec le maillot jaune sur les épaules, il les quitte une nouvelle fois avec le même maillot jaune, peut-être un peu plus solidement installé sur ses épaules, même si aujourd'hui, ses rivaux ont tenté de le harceler. On en parle évidemment dans un instant avec toute la Dream Team. Mais auparavant, la deuxième édition d'RMC Sport, c'est avec Guillaume Lagnel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Christophe. Et tu en parlais de cette 12e étape du Tour de France, achevée sur le plateau de Baye et donc remportée ce jeudi par l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Le coureur de la Katusha et termine devant Fuxang et Romain Bardet. Le coureur français a retrouvé des couleurs pour le plus grand bonheur de son coéquipier Mickaël Schérel.
Le top 10, il est encore envisageable, c'est sûr. Romain prend des précieuses minutes aujourd'hui. On a beaucoup travaillé pour en arriver là et on peut pas laisser tomber comme ça. Il y a trop de préparation derrière et on va continuer à se battre et surtout dans la solidarité.
Mickaël Schérel avec Pierre-Yves Leroux, Bardet qui pointe désormais à la 17e place au général, à plus de 10 minutes du maillot jaune Chris Froome, le Britannique a passé une journée tranquille malgré les attaques d'Alberto Contador et de Vincenzo Nibali. Demain 13e étape entre Muret et Rodez, un parcours qui est effectué aujourd'hui Lance Armstrong, correctement accueilli par les spectateurs. En tennis, Arnaud Clément a fait ses choix pour le quart de finale de Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et la France. Gilles Simon et Joe Will Wilfried Tsonga joueront les simples demain respectivement face à Ward et face à Andy Murray. En double, Richard Gasquet sera associé à Nicolas Mahut. Gilles Simon, donc quart finaliste à Wimbledon, lui veut souligner avant tout la densité du groupe tricolore.
C'est le signe de la force de notre équipe. On a un joueur qui a fait demi-finale en Grand Chelem sur gazon et c'est pas lui qui jouera vendredi. En tout cas, pour nous, en tant que joueurs, ça nous donne énormément de confiance de savoir qu'un joueur aussi fort que Richard est sur le banc et que ça va être à moi d'aller jouer sur le terrain. On sait que Richard peut rentrer à tout moment, que ce soit en double ou que ce soit en simple dimanche. Mais pour l'instant, on garde les choses simplement. On y va avec Joe demain et on essaie de tout faire pour être à 2-0 demain soir.
Gilles Simon, interrogé par Eric Salio à Londres. En football, au siège de la 3F, le président Noël Le Graët a reçu 5 présidents de Ligue 2 pour évoquer la scission entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Noël Le Graët a confirmé qu'il prenait leurs problèmes au sérieux. Alors qu'en ont pensé les présidents désabusés? Écoutez Guy Cotteret, le président auxerrois.
On a répondu à une invitation, on nous a dit que ce dossier serait étudié dès jeudi prochain par le comité exécutif qui est quand même l'instance suprême du football français, il ne faut jamais l'oublier. Et il ne nous a pas dit quelle serait la décision bien sûr, puisqu'il ne peut pas en préjuger. Et nous continuons les actions qui sont les nôtres et notamment un référé pour casser cette mauvaise décision qui était prise, je le rappelle, alors que la saison était commencée, c'est-à-dire le 9 juillet dernier.
Voilà, information importante, vous venez de l'entendre, le dossier va être soumis au comité exécutif de la Fédé. Guy Cotteret qu'ont rencontré Camille Gelpi et Loïc Lefort. Toujours en football ce soir, quart de finale, demi-finale de l'Euro des moins de 19 ans entre la France et l'Espagne, à suivre en fil rouge sur RMC. Aurélien Mercato, Mev Luterding, le Stéphanois devrait s'engager avec Hanovre, club de Bundesliga. Pas de troisième médaille française au championnat du monde d'escrime à Moscou. Jérémy Cado et Isaora Tibus se sont inclinés en quart de finale. Et puis en rugby, le groupe France qui se trouve toujours en altitude à Tignes pour la suite de sa préparation. Une préparation toujours axée sur un gros travail physique. Les Bleus ont eu droit ce jeudi à un réveil musculaire, puis en alternance de la musculation et du jeu. Avant de se quitter, un mot de golf avec le British Open qui a débuté. L'Américain Dustin Johnson est en tête, premier Français. Romain Langasque, 20e. Victor Dubuisson et Tiger Woods sont eux en grande difficulté. Il est 19h08 sur RMC. Christophe, on te retrouve pour le débrief, la suite du débrief de cette 12e étape remportée par Rodriguez.
Effectivement, merci Guillaume, bonne soirée pour Ito Rodriguez qui s'impose donc ici au sommet, au plateau de Baye, et le maillot jaune qui reste sur les épaules de Chris Froome. On va débriefer tout ça, on va faire le bilan des Pyrénées et s'intéresser évidemment à la suite de ce Tour de France, car il n'est pas encore terminé, n'en déplaise à certains qui trouvent que ce Tour de France n'a pas beaucoup de suspense. On va essayer de vous redonner de l'espoir et vous rendre le moral. Le tour n'est pas encore fini, il peut se passer plein de choses. C'est ce que nous dirons, peut-être, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, que je vais saluer. On va commencer par Thierry, qui est avec nous. Salut Titi.
Bonsoir messieurs.
Ça va monsieur Bourguignon, en pleine forme?
Oui, ça va, ça va. Bon. Vous avez eu un peu d'humidité.
Ah bah oui, hein, oui, bah on est bien les seuls. Hein. On est bien les seuls, je pense, en France adore à porter des blousons ce soir. Parce qu'a priori, dans la plaine, il fait plutôt chaud. Mais effectivement, ici, l'orage, la grêle et la pluie ont refroidi l'atmosphère. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça a permis à Lucho de récupérer parce qu'il a quand même pris un gros coup de buis aujourd'hui. Dans la montée.
C'était pas mon jour, j'étais pas dans mon
Lucho, j'ai entendu à la radio que t'étais un peu fatigué, non?
Ouais, non, mais ouais,
j'aime pas la chaleur.
J'ai un petit coup de buis, ouais, j'ai... Ouais,
mais tu sais, alors le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est la chaleur du col ou la chaleur de la nuit, quoi. Avec Lucho, on ne sait jamais, quoi. C'est peut-être un mélange des deux. En tous les cas, il a récupéré avec. Il aime pas la chaleur. Il est un peu comme Thibaut Pinot, Luc Leblanc. C'est pas. Hein,
pourtant, j'adorais la chaleur avant
quand t'étais jeune.
C'était avant Lucho.
Cyril Guimard, lui, est tout terrain. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, il est là en pleine forme. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir. Et ce soir, j'ai envie de chanter La Gadoue. La gadou,
ah oui,
la gadou.
Tu allais faire des directs sur BFM Télé.
Les pieds dans la gadou, oui,
c'est moyen.
Et effectivement, il y a la gadou et il y a les bousses de vache aussi.
Ah, bah oui, on est à la montagne, on est à la campagne.
Mais c'est parfait,
c'est
ça sent bon.
Au sommet des Alpages, c'est magnifique. La vue qui se dégage petit à petit. L'orage est passé, mais c'est vrai que tout à l'heure, il était quand même costaud. Alors, on va rappeler la victoire, messieurs, de Purito Rodriguez. Deuxième victoire d'étape pour l'Espagnol sur les routes de ce Tour 2015. Lui qui avait terminé la Grande Boucle 2013 à la troisième place sur le podium et qui avait déjà remporté une étape. Aujourd'hui, Thierry, il a été opportuniste, il a su être là dans la bonne échappée, dans les 22. Et c'est vrai que quand on faisait les comptes et qu'on le voyait dans les 22, on se disait que l'étape était faite pour lui. Eh bien, il ne nous a pas démenti. Hein. Il a été très bon dans le final de cette étape. Il a joué parfaitement le récital.
Ah, il a du nez pour se glisser dans des belles échappées, et quand il est devant, il se loupe rarement, hein. C'est vrai que, en plus, une arrivée au sommet comme ça, on le voyait que dans l'échappée, c'était le grimpeur de l'échappée, que ça ne pouvait pas lui échapper. Et, il l'a prouvé, hein, de belle manière, parce que, franchement, en costaud, il a gagné, hein.
Cyril, tu disais tout à l'heure pendant le direct qu'il avait perdu un tout petit peu de ses aptitudes de grimpeur puncher avec la niaque quand il sortait dans les échappées. Mais là, les adversaires qu'il avait aujourd'hui, c'était pas Quintana, c'était pas Froome et les autres. Donc oui, par rapport à d'autres grimpeurs moyens, il est quand même largement au-dessus.
Oui, alors quand je dis je dis simplement qu'il est un peu moins saignant. Ouais. Qu'il l'a été, mais il a 36 ans aussi, donc et en plus ses qualités d'explosivité, c'est quand même les premières que l'on perd avec l'âge. On va devenir plus endurant, mais pas plus rapide, pas plus explosif qu'on l'est à 20 ans ou à 22 ans, donc il reste quand même. La preuve, c'est qu'il a gagné encore au sommet du mur de Huy sa première étape sur ce tour. Mais il faut dire aussi que Fuglsang n'est pas le grand Fuglsang
qui termine deuxième de l'étape. Hein,
qui était quand même leader sur
le rallye de la formation Astana.
Oui, qui était quand même, qui a été pris dans des équipes pour être leader sur les grands tours. Donc là, il est un petit peu en dessous. Et puis, c'était pas non plus du très grand Bardet. Il s'est refait une belle santé par rapport à hier et avant-hier. Il avait à cœur de se remettre dans le sens de la course. C'est ce qu'il a fait, mais à mon avis, il faudra deux ou trois jours pour qu'il retrouve son vrai niveau. Mais à son vrai niveau, c'est lui qui l'aura emporté.
Ah oui, à son vrai niveau, c'est lui qui l'aura emporté. Tu penses qu'il est sur une ascension comme ça, il peut répondre aux attaques
bien
de
sûr.
Purito.
Ben, regardez dans...
Purito a attaqué à plusieurs reprises, hein. C'est ça qu'il a essoré ses
adversaires. Oui, non, mais non, il n'y a pas de souci. Là, le problème, c'était pas le Nibali de l'an dernier. Or, le Nibali de l'an dernier, il arrivait à suivre. Bon, là, on passe pas d'un jour à l'autre à 50% de rendement à 100%.
Quoi. C'était déjà surprenant, finalement, Lucho. On parlera tout à l'heure des Français, mais de revoir Romain Bardet à l'attaque, suivre les attaques répétées de Rodriguez avant de craquer quelque peu sur le final, mais de le revoir là, en bonne position, alors qu'hier et avant-hier, c'était un véritable calvaire qu'il a vécu.
Oui, je dirais même que c'est un exploit de le voir devant aujourd'hui, de le voir arriver ici au plateau de Baye en troisième position. Ça veut dire qu'il commence un petit peu à récupérer, je dirais, fait de ces petites tracasseries. Je pense qu'il a eu des petits problèmes de santé, donc là il est en train de se réparer petit à petit avant, je dirais, la dernière semaine qui va être très importante dans les Alpes. Mais ceci dit, on peut s'attendre à voir un Romain Bardet dans les prochains jours attaquant.
Ouais. On en parlera tout à l'heure.
Voilà, voilà. Donc bon, après il y a l'étape de Rodez, il y a l'étape de Valence où il peut se refaire encore une petite santé avant d'aborder les Alpes dans de bonnes conditions.
Très bien. Donc victoire de Rodriguez, Fuglsang termine à la deuxième place avec un retard d'une minute 12. Romain Bardet donc troisième à 1:49 et puis un peu plus loin Romain Sicard qui faisait partie lui aussi de l'échappée de 22 coureurs, septième à 6:03. Michael Chérel, coéquipier de Romain Bardet, termine huitième à 6:26 et puis arrivé avec un retard de 6:46 Alejandro Valverde qui a encore grappillé une seconde, c'est-à-dire que s'il grappille comme ça une seconde à Chris Froome par étape, je pense que dans deux ans il peut prendre le maillot jaune.
Il attaque
exactement, au moins il a attaqué à plusieurs reprises dans l'ascension, bon comme tous les autres d'ailleurs, hein, comme Contador, comme Nibali, comme Quintana, voilà, tout le monde a harcelé aujourd'hui Chris Froome, mais le problème de ces gars-là, c'est que Chris Froome n'est pas seul, il a deux hommes avec lui, deux hommes qui sont allés jusqu'au bout, quasiment, notamment Geraint Thomas qui termine l'étape avec toute la petite bande. On parlera tout à l'heure des équipiers de Chris Froome. Alors, le scénario du jour, est-ce que le scénario d'aujourd'hui vous laisse des espoirs pour les Alpes qu'on abordera la semaine prochaine? L'écart, en tous les cas, aujourd'hui, semblait moins important qu'il ne l'était avant-hier entre Froome et ses adversaires. Alors, à moins qu'il bluffe, évidemment, c'est toujours possible, puisque là, le maillot, il est tranquille, de 52 d'avance sur Van Garderen et plus de 3 minutes sur Quintana. Peut-être aujourd'hui n'avait-il pas envie d'assommer à nouveau le tour et de réveiller à nouveau la vindicte populaire qui s'est abattue sur lui et sur la formation Sky. Alors, scénario qui incite à
l'optimisme.
Pourquoi pas?
Aujourd'hui, en fait, on n'a pas vu grand chose, puisqu'il a jamais, il s'est jamais retrouvé seul à être obligé de contrer les attaques, puisque il avait Richie Porte qui faisait monter très vite. Donc là, ça condamnait quand même une grande partie des possibilités d'offensive. Le premier, il y a eu les Tinkoff qui ont essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé de durcir la course. Mais ça n'a servi strictement à rien. Il y a eu la première attaque de Contador, et très vite on s'est rendu compte que Contador c'était un pétard mouillé. Alors après Valverde a commencé. Moi je pense qu'on s'est plus trouvé dans une situation où on a mis des banderilles pour voir ce que ça donnait, et je crois que très vite ils se sont rendus compte que c'était pas sur cette ascension là que les choses se feraient. Alors, ils ont continué, un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'on était plus dans un spectacle pour se dire que. Et puis, on savait aussi que certains grands coureurs, certains grands leaders sur ce tour, commencent à énerver leur boss milliardaire.
Oui, c'est le cas de Nibali, d'une part. Nibali qui énerve Vinokourov.
Voilà, donc, par rapport aux remontées de bretelles, puisque c'est les informations que notre ami Georges nous a données pendant l'étape, eh bien, ils se devaient de montrer, de faire allégeance à leur chef. Bon. Mais j'ai jamais senti à un moment donné une véritable attaque pour faire sauter, mais de toute façon, elle aurait été vaine.
Ouais. Lucho, tu as quand même été entendu, hein, parce que depuis hier, tu t'énerves parce qu'il n'y a pas assez d'attaques. Là, ils ont tenté leur chance. Alors, tu nous disais, mais pourquoi Quintana, il n'en remet pas une? Mais Quintana, il faut être quand même en super forme pour attaquer à plusieurs reprises. Donc, tu es déçu par ce qui s'est passé aujourd'hui, ou au contraire, tu te dis qu'il y a encore de l'espoir pour les Alpes?
L'espoir fait vivre, hein, comme on dit, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir quelques petites attaques un peu plus tôt dans l'étape d'aujourd'hui, notamment dans l'avant-dernier col, même si c'est vrai qu'entre le sommet de l'avant-dernier col et le pied du plateau de Baye, il y a quand même un petit peu de distance.
Mais si tu veux,
il aurait fallu peut-être essayer de virer entre guillemets les équipiers forts de Froome.
Mais ils l'ont fait.
Comment tu peux faire, Lucho?
Il a fallu du temps quand même pour les
comment,
faire péter,
comment hein. tu veux faire bah, il faut attaquer. Attends,
non mais comment Fromm, non, c'est le plus fort après Fromm quand... c'est Geraint Thomas, c'est le plus fort après Fromm et Geraint Thomas.
Ouais, mais à un moment
c'est
Rick
Support.
Pas...
Il fait comment?
Ouais, mais enfin, les c'est deux pas... sont plus forts que les leaders qui sont opposés à la Sky.
Ouais, alors, mais Thomas, moi j'arrive pas à voir. C'est pas l'homme qui valait 3 milliards. À un moment donné, il va sauter quoi.
Non, c'est à croire.
Il a tout roulé là.
Oui, il a tout roulé, mais enfin, oui, mais à un moment donné,
tu fais rouler Valverde, il saute, hein.
Oui, mais enfin, tu leur mets une petite perte fractionnée dans l'école. Voilà, il roule au rythme. C'est sûr qu'il roule fort, il roule au rythme, mais dès que ça accélère et dès que ça fait quelques petits fractionnés,
mais Lucho, il commence à péter la bosse déjà super vite. Super vite, il monte.
Eh ben, t'en remets une, Thierry.
Mais tu peux pas. Mais t'as vu comment il s'essouffle.
Il veut toujours en remettre une.
Moi, je veux bien. Ils ont pas le vélo électrique.
Ils sont pas. Attends.
Ils
sont pas indestructibles quand même.
Mais Lucho, ils en ont mis des sacs. Mais vu la vitesse où ça montait,
c'est pas assez lourd les sacs.
Ah ouais, bah ouais, bah, ils t'attendent. Hein. Reprends plus tard, hein.
Attends, je reviens 20 ans en arrière.
Mais quand je vois la vitesse où ça monte, mon petit bonhomme, j'ai pas envie d'être dans le groupe. D'ailleurs, je pourrais pas y aller.
Bon, Thierry, optimiste pour la suite. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'ils aient tous tenté les uns après les autres. C'est tous contre Froome aujourd'hui, tous contre la Sky plus exactement.
Ça c'est quelque chose d'important.
Oui, moi je trouve ça sympa parce qu'on espérait qu'il y ait une certaine coalition contre Froome, parce que Froome et sa garde rapprochée avec Thomas et Richie Porte, franchement, je vois pas comment on peut les mettre en difficulté. On a comme dit Cyril, les hommes de Contador ont mis en route au pied pour essayer de durcir la course, et en fait, dès qu'ils ont baissé un peu de rythme, c'est Richie Porte qui s'est contenté de faire un petit...
Mais il s'est mis en danger, Froome, à un moment donné.
Il a attaqué, mais je sais même pas pourquoi il a fait ça.
Il a fait pour leur dire, écoutez les gars, il est encore là.
Ouais, mais il a fait péter son équipier.
Qui est revenu après.
Mais bon, Quintana aurait été.
Oui, mais peut-être
ses
équipiers ont dit bon, voilà, le patron prend les choses en main, nous on va rester tranquille maintenant.
Nous, on se relève.
Ça peut aussi être. Tiens, on va écouter Nicolas Portal à ce sujet, le directeur sportif de la formation Sky. Alors, est-ce qu'il s'attend à un scénario identique tous les jours? Est-ce qu'il s'attend à être harcelé par les adversaires de Chris Froome? Nicolas Portal.
Non, mais je pense qu'en fait, ça tous les jours, ça est toujours comme ça. Faut pas s'attendre à avoir des amis, ou en tout cas, on n'a pas non plus d'ennemis. C'est juste la course. On nous fait pas de cadeaux, et c'est normal. Donc, ça va être ça tout le tour. Et ben voilà, il faut maintenant à nous de gérer notre gain de temps le mieux possible. Il faut pas s'exciter sur tout ce qui bouge au prix de. Voilà, si on se met trop dans le rouge, on peut aussi tout perdre, quoi.
Vous l'avez dit. Voilà, il faut pas attaquer sur tout ce qui bouge, Cyril. Hein,
c'est
la voie de la raison.
C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Oui, non.
Plus personne n'est dangereux.
Mais alors, alliance entre les adversaires de Froome. Est-ce qu'il peut y avoir une alliance?
Mais ça tient rarement longtemps.
Ouais, c'est ça.
Parce que lorsque, imaginons à un moment que Van Garderen attaque.
Non.
Il peut pas attaquer.
On va prendre
Cyril, c'est
allez,
pas
Contador
bon,
qui se trouve derrière, qui sort et qui s'en va. Bon, il s'en va et la Sky y va pas.
Est-ce que
Quintana et Valverde vont attendre qu'il ait trop d'avance pour bouger? À un moment, Froome, il peut très bien dire, attends, moi, Contador, il est à 4 minutes. Allez, je lui donne une minute de liberté. Donc, je le laisse prendre une minute. Eh ben, je suis pas sûr que l'alliance, ça va durer longtemps,
hein. C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a un moment,
tout le monde a des intérêts différents.
Il y a Quintana et Valverde qui vont se mettre à rouler et Van Garderen aussi, quoi. Mm-hmm. Et le maillot jaune, ce genre de situation, je l'ai connu 50 fois, soit dans les Tours d'Espagne, les Tours d'Italie ou les Tours de France, et à un moment, c'est le quatrième qui va chercher le cinquième, c'est le troisième qui va chercher le quatrième, et ainsi de suite. Et pratiquement, quand t'es leader, ben, tu laisses les petits se battre entre eux, et toi, tu restes le taulier.
Exactement.
Et tu comptes les points.
Gilbert est avec nous au 32-16. Je voulais intervenir dans notre débat. Il nous appelle les Alpes-Maritimes. Bonsoir, Gilbert.
Oui, bonsoir, Dictine. Bonsoir tout le monde. J'ai une question à vous poser.
Ouais.
On va dire que les trois mousquetaires de Sky, là, s'ils veulent vraiment, mais si, je sais pas, c'est une question que je pose. S'ils veulent, ils s'en vont tous les trois après que c'est exagéré. Et il n'y a personne qui les arrête. Parce que apparemment tout le monde peut les attaquer, mais en fait, il suffit qu'il y ait un des trois mousquetaires qui y va, et ça suffit, tout le monde est calmé. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je trouve que ils sont vraiment au-dessus du lot, les trois. et ils font ce qu'ils veulent. Moi, à mon avis, si dans les Alpes, on pourrait pas avoir ça, parce que sinon, la polémique, ça va partir comme à l'époque, avec l'équipe de Virenque, enfin bon, peu importe, on s'en fiche. Mais je suis sûr que s'ils attaquent, eh ben ils se retrouvent tous les trois. Je sais pas ce que vous en pensez.
Tu crois qu'ils peuvent faire 1, 2 et 3 sur le podium des champions?
Ils
vont faire 1 et 2 déjà.
Votre remarque est tout à fait... Votre remarque est tout à fait justifiée. Qu'est-ce qui s'est passé là, à la Pierre Saint-Martin?
1-2.
Ils font 1-2 et pour un peu.
Ouais.
Donc, oui, c'est possible. Il suffit qu'il y en a un qui sorte, qui fait exploser, les autres contre derrière et puis ils font 1-2-3, oui.
T'as 3 oui, secondes sur le podium au champ.
Vous avez vu Contador sortir. Bon. Est-ce que Contador était capable de faire. Imaginons que Contador soit équipier de Froome. Eh bien, avec la jambe qu'il a aujourd'hui, il est incapable de rouler aussi longtemps et à la même vitesse que Richie Porte ou aussi longtemps et à la même vitesse que Geraint Thomas. Il peut pas. Il est sorti, il a pris 2,50 m et puis il s'est fait une bosse au front. Donc il est même pas capable, il serait même pas capable de rouler à la vitesse des équipiers de... Mais c'est sans doute vrai. À la limite, il y en a qu'un qui pourrait peut-être le faire. Allez.
Quintana.
C'est Quintana peut-être, c'est tout. Mais même Valverde, il pourrait pas rouler. Valverde, il est sorti, et puis ils l'ont laissé là, et puis il est revenu tout seul. L'élastique, elle est revenue toute seule. Ouais. Aujourd'hui, les trois plus forts, ben, je suis désolé, hein, c'est Thomas, Richie Porte, et puis l'araignée là.
Ouais. Alors ça suscite beaucoup d'interrogations évidemment le fait qu'il y ait trois coureurs de la même équipe qui soient au-dessus du lot et qui arrivent notamment à reprendre de purs grimpeurs tels que Quintana, Contador, Nibali.
Richie Porte c'est un grimpeur, hein. Faut pas se.
Mais je pensais plutôt à Geraint Thomas qui est un garçon issu. Alors voilà, je veux juste avoir les explications. On en a parlé tout à l'heure en antenne avec Cyril. Geraint Thomas, c'est un garçon qui a commencé par la piste, qui est double champion olympique de poursuite par équipe et qui aujourd'hui grimpe aussi bien que Quintana et les autres. Est-ce que c'est surprenant ça, Cyril? Est-ce que toi tu es surpris par ce changement de physionomie et changement de carrière en quelque sorte pour Geraint Thomas? Ou alors est-ce que c'est dans le droit fil d'une carrière? On peut commencer sur la piste en poursuite et ensuite finir en haut de montagne.
Lorsqu'on fait de la piste, alors il y a deux choses sur la piste. Vous avez les sprinters. Alors ça, c'est un autre sport.
Voilà, évidemment, c'est Grégory Boget.
Non, la vitesse par équipe, le sprint.
Ils passent pas un pont de chemin de fer, ceux-là. Hein.
Non, mais ils essayent même pas, d'ailleurs. Mais c'est pas le même sport. Alors déjà, vous passez 50% de votre temps dans la salle de muscu. Bon, ceux qui font les omniums, c'est-à-dire les américaines, les individuels...
Tels que Brian Coquard, hein, qui a été vice-champion olympique, je crois.
Oui, Brian Coquard, c'est aussi un pistard. Mais vous savez que vous... Oui, donc, ce que j'allais dire, c'est que pour faire de la poursuite, il faut d'abord faire de la route. Quelqu'un qui devient champion olympique de poursuite, c'est d'abord un routier, parce qu'il faut d'abord apprendre à courir sur route, tout en apprenant à courir sur piste. Mais l'entraînement, il se fait sur la route, la technique se fait sur la piste, mais beaucoup plus tard.
Mais ça se fait sur la piste d'un vélodrome, ça grimpe pas un vélodrome.
Courses sur route, vous les faites pas sur un vélodrome. Vous courez sur route, et puis à certains moments, vous allez. Mais attendez, regardez ce que fait Vikings. Il fait les courses sur route, et puis à un moment, il se dit hop. Un mois et demi avant les Jeux Olympiques ou le championnat du monde, je fais du spécifique.
C'est vrai que quand tu regardes le palmarès de Geraint Thomas, il n'a pas de palmarès.
Sa spécialité,
c'est rouleur.
Ouais.
Bah oui.
Voilà.
Rouleur qui a quand même terminé, je crois, deuxième. Attends, du Tour de Suisse récemment. Hein, je sais plus quand, mais là.
Non, il est pro depuis 2005 quand même.
Deuxième du Tour de Suisse qui s'est terminé il y a un mois.
Il est pro depuis 2005.
Cinquième de Paris.
Ferdinand Braque.
Ouais. Alors, on va s'interrompre quelques instants. On revient sur ce débat parce que, évidemment, vous avez des questions à poser là-dessus. Très bien. Merci Gilbert, en tous les cas, d'être venu au 32-16. Il a suscité ce débat concernant les équipiers de Chris Froome qui reste en jaune. Donc, continuez nos débats avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon dans un instant. Et vous au 32-16. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
En direct du plateau de Bègles au soir de la 12e étape du Tour de France, dernière étape pyrénéenne. On va redescendre dans la plaine demain pour quelques jours avec des étapes de transition. Attention, des étapes difficiles, on en parlera dans quelques minutes. Et puis les Alpes, ce sera la semaine prochaine. On était en plein débat concernant les équipiers de Chris Froome qui ont été impressionnants aujourd'hui, notamment Richie Porte, porteur du maillot à poids. Enfin, c'est normalement Chris Froome qui devrait le porter, mais comme Richie est deuxième au classement, c'est lui qui a le maillot à poids. Et puis Geraint Thomas, cinquième du classement général, dont on parlait. Geraint Thomas, je regarde un peu son palmarès dans les grands tours. En 2014, il est 22e du Tour de France. C'est sa meilleure performance sur un grand tour.
En quelle année ?
En 2014, l'an dernier.
Oui.
Auparavant, 140e, 31e en 2011.
Oui, équipier de Wiggins. Hein.
Équipe, oui.
Et de Froome.
Équipier, déjà. Mais là, il est équipier aussi. Oui. Il est équipier, il est cinquième. Donc, il y a quand même eu un gap de...
De qui on parle là ?
De Geraint Thomas.
Ah, j'avais compris...
Porte,
oui.
Non. On parle de Geraint Thomas. Est-ce que toi, ça te surprend qu'un poursuiteur... C'est pas le premier exemple. Hein. Cyril le disait tout à l'heure dans le direct. Bradley Wiggins a connu le même changement. Il a été champion olympique. Et puis, il est devenu un très bon grimpeur au point de remporter le Tour de France. Lucho, ton avis ?
Ça m'inspire que je me pose la question, quoi, parce que il est quand même pro depuis pratiquement 8 ans. Donc, si c'était un homme de tour de grand tour, il aurait déjà fait des résultats dans les grands tours, que ce soit la Vuelta, le Giro ou le Tour de France. Ça fait 8 ans, Cyril, qu'il est pro. Et là, il grimpe, l'école comme les plus grands grimpeurs. C'est ça qui me tracasse. Tu vois, ça m'interpelle un petit peu, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur ses performances à lui, quoi. Parce que bon, tu n'as pas. Voilà, je suis surpris parce que tu n'as pas que le Tour de France. Tu as d'autres courses comme Paris-Nice, le Dauphiné Libéré, ou d'autres courses à étapes de 7-8 jours où tu as des cols où on le voit pas. Et là, on le voit sur le Tour de France. C'est ça qui me. Moi, je sais pas quoi en penser.
Thierry, ton avis?
Moi, ce qui me surprend, c'est que les deux sont super costauds, mais c'est pas d'aujourd'hui en plus. Depuis le début du tour, ils sont là pour tirer des bouts droits sur le plat, sur les en montée, en descente, ils savent tout faire. Ben tant mieux. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que à cause d'eux, parce que s'il n'y avait que Froome, les adversaires, les quatre fantastiques et autres, on va dire pseudo-fantastiques, pouvaient peut-être espérer. Mais là, avec une garde rapprochée comme ça, s'ils sont pas fatigués ou blessés, je sais pas comment ils vont les mettre à plat, parce que Lucho a raison de dire qu'il faut réitérer les attaques tout au long de la montée. Mais quand on arrive au pied de la montée déjà à donf, à fond, et qu'ils impriment un rythme fou à garder que les leaders dans le groupe, et qu'à la fin, ben les gars qui attaquent, et c'est les grands, on parle de Contador, de Nibali et de Quintana, et les gars, ils prennent quoi? Ils prennent même pas 50 mètres. Mm-hmm. Donc oui, ça me chagrine un peu pour la suite du Tour de France, parce que dans les Alpes, je vois pas comment
On peut dire tout ce que l'on veut aussi. Quand vous prenez Geraint Thomas, ou vous prenez Stannard, par exemple, voilà, des coureurs, quand vous regardez, et ça m'est arrivé de commenter beaucoup de courses à l'étranger, quand vous voyez les leaders qu'ils ont autour d'eux et quand vous voyez le travail qu'ils abattent toute l'année pour leur leader, soit le sprinter, soit
le grimpeur,
vous vous dites que s'ils sont en position de leader, ils peuvent passer. Et le fait de dire qu'il vient de la piste, vous le savez, une partie du recrutement que je faisais, j'allais voir les temps que faisaient certains coureurs sur la piste.
Non mais
parce que attends, je suis pas jusqu'au bout.
Ah ben heureusement que t'as pas été voir sur la piste, hein, Laurent.
Oui mais attends, je n'allais pas que sur la piste. Mais attends, Greg LeMond, quand je suis allé le chercher, il faisait quoi? Greg LeMond, tu sais où je l'ai trouvé, Greg LeMond? Eh bien, grâce à Philippe Chevalier qui faisait les championnats du monde junior au Canada, où LeMond il va en finale. Il va en finale et il avait déjà gagné l'épreuve sur route. Et quand j'ai vu les temps qu'il faisait en finale sans même aucune préparation, j'ai dit celui-là, je vais aller le chercher. Oui. Charlie Mottet au départ, c'est un pistard.
Oui, il a fait de la piste à Grenoble.
C'était un pistard.
Je suis désolé. Il a fait de la piste.
Mais oui, il faisait de la piste, il faisait des chronos aussi. Oui, seulement après, quand il arrivait au Grand Prix des Nations, il allait gagner le Grand Prix des Nations, il allait gagner le Critérium du Dauphiné. Il avait du mal sur les grands tours, mais logiquement, il aurait dû, mais il est tombé malade, gagner un Tour d'Espagne. Et il y a un Tour de France où il saute juste sur le final. Attendez, il arrivait de la piste. Ferdinand Braque, il a gagné le Tour d'Espagne, il fait deux d'un Tour de France. Roger Rivière, malheureusement, il a chuté. Il arrivait de la piste, champion du monde sur piste.
Donc il faut 8 ans avant qu'il sorte du lot, en fait.
Mais non, parce qu'on s'imagine que sous prétexte que tu fais de la piste, tu peux pas être un routier.
Alors que les routiers
vont sur la piste et qui... Parce que la première qualité d'un poursuiteur, c'est de rouler vite. Quand tu sais rouler vite, tu peux apprendre à rouler vite.
On n'a pas dit qu'un pistard ne pouvait pas faire de la route et des résultats sur la route. Le truc, si tu veux, c'est que ça fait 8 ans qu'il est pro, il n'a pas de palmarès.
Voilà, bon, c'est tout. Alors, tout ça, on découvre Thomas.
Moi, j'ai eu des coureurs, et tu les connais dans notre équipe, chez Renault, qui n'ont jamais gagné une course.
Non, mais d'accord.
Ils étaient dans toutes les équipes où on gagnait. Des coureurs comme Le Guillou, des coureurs comme Hubert Arbe, des coureurs comme Chalmel.
Je suis d'accord.
Et alors, des coureurs comme Kilfen.
À aucun moment,
ils auraient été à côté dans l'équipe du Tour d'Italie ou dans l'équipe du Tour de France. Et ils y ont toujours été.
Oui, mais Cyril, ce qu'on te dit,
rouler dans un col, il y a d'autres courses que le Tour de France. Thomas, rien ne l'empêche de faire des résultats dans d'autres courses.
Il est allé gagner des classiques.
Il peut avoir le ticket. Oui, mais des classiques, c'est pas des cols.
Non, mais là, on parle de mettre mal les grimpeurs dans un col.
Des classiques, c'est pas des cols.
C'est quand même ça.
Je te parle de course à étapes, moi.
Ouais. Bon, en tous les cas, le débat n'est pas terminé puisqu'il y aura encore les Alpes.
Il n'y a pas à avoir de débat là-dessus.
Il n'y a pas de débat. Ils sont costauds, c'est tout.
Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu, Cyril. Effectivement,
Laisse les bottes à Cyril.
Attends, nous qu'essayons. En tant qu'entraîneur et en tant qu'éducateur, on essaye d'amener les jeunes à la piste et vous êtes en train de casser la piste.
Mais Cyril, on n'a jamais dit ça. On s'interroge. Sur un mec issu de la piste qui n'a jamais gagné de maillot de meilleur grimpeur, il met la pige à tous les grimpeurs dans un col super costaud. Voilà, c'est ce qui me dérange.
Au contraire, on est pour la piste. On te parle pas de, voilà.
Et parce que poursuiteur, et ce qu'il faut pas confondre aussi sur la piste, c'est qu'on a l'habitude de voir les sprinteurs sur la piste. Alors c'est vrai que
le sprinteur,
il fera jamais de course.
Est-ce que Guérin Thomas est un garçon qui, dans les années à venir, peut espérer remporter le Tour de France? S'il y a des contre-la-montre, parce que c'est un redoutable rouleur,
il y a deux solutions. Il a un esprit d'équipier, il a pas un esprit de leader. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut intégrer.
Oui. Alors que Chris Froome, qui était équipier, il y avait un esprit
de leader.
Mais Chris Froome, avant qu'il se mette à voltiger, le nombre de bouts droits qu'on le voyait prendre, y compris dans les classiques.
Richie Porte, c'est un autre problème. Richie Porte, on ne met pas en doute évidemment ses qualités de coureur complet qui a remporté plusieurs fois Paris-Nice.
Tous les Australiens, ils sortent de la piste.
Et voilà, lui aussi.
Attendez, tous les Australiens, ils sortent de la piste.
Mais on ne dit pas qu'un mec qui fait de la piste, il fera pas bon sur la route. On n'a jamais dit ça non plus.
Vous l'avez énervé, le druide, là.
On dit ça, vous l'avez énervé. Mais
moi, je me mets à la place aujourd'hui, là, des entraîneurs de clubs, que ce soit des clubs de DN ou même des mômes, qui amènent les mômes sur la piste quand ils entendent ce qu'on dit là. Attends, ils vont arrêter.
C'est toi qui interprètes.
Tu es en train de gonfler le truc.
Allez,
on est en train de se mettre dans les sables mouvants, là, tous ensemble, là, parce que.
Là, les super costauds. On change de débat, messieurs. On aura l'occasion évidemment de s'enflammer à nouveau pour les équipiers de Chris Froome, véritablement impressionnant. Sur Tour de France, les Français maintenant, nos petits Français. Alors on comptait beaucoup aujourd'hui sur Galopin, sur Barguil qui nous avait étonné les jours précédents. Aujourd'hui malheureusement, ils ont connu un coup de moins bien. C'était un petit peu attendu pour Tony Galopin. Cyril, on le disait hier, si Galopin parvient à rester avec les meilleurs aujourd'hui, c'est que vraiment il aura franchi un cap et pourra viser un classement général, un très bon classement général dans un grand tour. Manque de peau aujourd'hui, ça a été plus compliqué pour Tony.
Non,
même s'il a, il a terminé très honorablement.
Non,
on ne va pas dire le contraire.
Attends, il fait un tour magnifique.
Magnifique.
Sauf que ça fait deux jours que je dis que par rapport à son rapport poids-puissance. Alors, je sais, il y a des gugus là qui tweetent et qui disent arrêtez avec votre relation poids-puissance. Bah, je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir une très grande expérience, qui a dû être manager pendant 100 ans. On sait très bien qu'à partir d'un certain moment, vous pouvez passer un jour, deux jours, vous passez pas trois jours. Et Galopin, qui est en super condition, il fait encore aujourd'hui, sur quatre cols, une belle étape. Mais il peut pas jouer pour aller sur un podium du Tour de France.
On en avait parlé hier, Cyril. Bon, on en avait parlé hier, peut-être que deux,
non,
trois,
quatre cols. Non, mais je me suis fait incendier là, par des types sur Twitter ou Facebook, là, je sais plus quoi.
Facebook.
Il faut arrêter. Il y a des logiques. Ouais. Et si Galopin se met à monter comme à une certaine époque, comme une Durand, 80 kilos, et je monte tous les cols devant.
Il fait 70 kilos.
Il est pas lourd, tu passes pas. Tu peux pas passer tous les jours sur l'étape de 4 cols. C'est pas vrai.
Ouais, Galopin qui donc termine 22e de l'étape à 9 minutes 46 et juste derrière lui Warren Barguil, là aussi
il est encore dans le tapis, c'est la sortie des Pyrénées. Exactement. Et ça c'est exact.
Ouais, alors, Warren Barguil, on le disait, hein, deux jours après la Gamelle, c'est là souvent que les
bah oui, on dit pas des conneries sur
tu dis qu'il termine à 9:46 aujourd'hui, Christophe.
Non, on dit pas que
de Rodriguez.
De Rodriguez,
ouais, voilà, du maillot jaune.
3 minutes derrière le maillot jaune.
Donc c'est pas du tout énorme.
Bon, alors Barguil, Galopin, un coup de moins bien, mais ils sont toujours dans le coup. Ils sont toujours classés au général dans les 10 premiers, me semble-t-il. Avec
Barguil est 11e, je crois.
Ouais, Barguil est juste en dessous, à 11e place. Et Tony Galopin, 8e, à 7 minutes 32 de Christopher Froome. Et puis aujourd'hui, messieurs, quand même, la résurrection de Thibaut Pinot et de Romain
Bardet. On est passé à Lourdes, ce matin.
Quand je vous disais qu'ils n'aimaient pas la chaleur.
Ça tenait du miracle, quand même. Quand on a vu hier Romain Bardet complètement à l'agonie.
Ouais, il a fini pas trop mal hier.
Ouais. La première partie de l'étape a été très dure. Ensuite, c'est vrai qu'il s'est refait la suite. On va l'écouter, Romain Bardet, qui est content d'avoir retrouvé des jambes aujourd'hui. Romain Bardet.
Je reviens de loin. Je retrouve un petit peu la santé, des couleurs. Toute l'équipage de la mondiale retrouve des couleurs. C'était important de prendre les choses dans le bon sens aujourd'hui après une journée catastrophière. Là, je connais, ça fait 4 ans que je suis professionnel. Je connais mon plus gros échec pour l'instant sur le Tour de France. Et ça va pas passer de tout noir à tout blanc en un trait de temps, il faut se reconstruire tout doucement. J'en ai pris un gros coup au moral, j'en ai pour jouer un top 5 ici. Et, voilà, comme je le disais, j'ai du mal à suivre le peloton, donc je reprends des couleurs petit à petit et ça fait du bien au moral et ça fait faire du bien à toute l'équipe, ça va nous remettre sur le bon chemin avant la semaine alpestre.
Voilà, la tête va mieux Thierry pour Romain Bardet, et ça c'est évidemment une bonne nouvelle. Est-ce que c'est un nouveau tour qui commence pour lui et pour Thibaut Pinot dont on parle dans quelques instants?
Ah, faut pas s'affoler non plus, hein, c'est une journée, on avait une baisse de température. Moi je pense que c'est déjà ils ont été atteints par une température constante depuis le début du tour et ils aiment pas ça.
Excuse-moi de te couper Thierry, mais
de quoi?
Non. La température a été très élevée jusqu'à l'apparition de la pluie. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà devant,
oui,
avec des températures très élevées sur les 100 premiers kilomètres. Et c'est seulement sur la descente de l'avant-dernier col que la pluie est arrivée et que la température... Mais avant, ils étaient sur les mêmes températures qu'hier ou avant-hier. Ouais.
Hein. Mais il a fait très chaud sur toute l'étape. Hein. Ah bah Lucho a pris un coup de buis, lui, dans la montée. Ah, donc,
trop chaud.
T'imagines, sur le vélo. Thibaut Pinot, qui dit quand même tout à l'heure, je suis très satisfait de cette journée. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ça ne marchait pas. C'est la chaleur qui me pénalisait. J'en ai la confirmation. J'ai retrouvé des jambes dès qu'il a commencé à pleuvoir. Maintenant, j'attends les Alpes et la pluie avec impatience. Cette journée m'a fait du bien car depuis le début du tour, je n'avais quasiment jamais pu exploiter mon potentiel. Pour le moral, c'est bon. Donc lui le dit, c'est la chaleur.
Mais attendez,
il cherchait des explications hier.
Il y en a quelques-uns qui passent mal la chaleur.
Ça ne peut pas être l'explication, la seule explication.
C'est pas la seule explication, peut-être, parce que ils ont.
Alors il va falloir mettre le Tour de France au mois de février.
Le malaise qu'ils avaient, c'est tout.
Il va falloir mettre le Tour de France au mois de février.
C'est ce que nous disent certains tweetos qui nous disent. Mais pourquoi ne pas tenter d'aller sur le Tour d'Italie où il fait toujours un temps de cochon au mois de mai? C'est vrai que
bon, on a eu la saison cet hiver.
Hein.
Ouais. Je vous rappelle que le Tour de France a traversé la neige.
Enfin, où ils veulent faire au moins une fois.
C'est une fois tous les 10 ans, Thierry.
Ouais, c'est quand même pas la majeure partie du temps sur le Tour de France. Il fait quand même plutôt beau au mois de juillet en France.
Il y a eu la canicule. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Dans les voitures, Lucho, t'as la clim. Oui. Hein, mais la canicule mais dehors,
il cherche la canette, tu sais, pendant toute l'étape.
Et là, ils annoncent de nouveau la canicule sur le
oui,
sud-ouest.
Oui, alors Thibaut Pinot dit ouais, j'ai hâte d'arriver dans les Alpes parce que il va pleuvoir. Mais d'où il tient ces informations? Parce que moi, j'ai regardé les
météos.
On annonce mais pas vraiment, enfin, peut-être des orages, mais a priori, la canicule va se poursuivre encore quelques temps.
La canicule les prochains jours, là.
Ouais. Le problème pour Thibaut, c'est que le tour, c'est tous les ans au mois de juillet, quoi.
Ouais.
Donc, mais si non, c'est la canicule l'année prochaine.
Lucho dit pas de bêtises non plus. Non, mais il fait toujours chaud, mais il y a eu des tours plus chauds que d'autres. Et une année, moi j'ai eu du mal à finir le tour parce que j'avais la grosse chaleur. Et dans les Pyrénées, quand il a plu, eh ben j'étais super content. Et il y a des gens qui passent mieux sous la chaleur que d'autres. Et c'est tout. Et c'est vrai que cette année, c'est étouffant. Faut pas dire le contraire.
Il y a quand même, ça a commencé depuis le départ, même en Hollande. Ben oui. Il y a une canicule de 40 degrés.
L'actualité, je sais pas si tu regardes un peu l'actualité. Il y a 700 morts de plus en une semaine parce que à cause de la chaleur. Donc les cyclistes, tu vois, quand tous les jours on te dit surtout ne faites pas du sport l'après-midi, ben les mecs ils sont sous 40 parce que c'est 40 au soleil. Hein.
On va mettre notre druide au frais, nous, dans les jours, les prochains jours. Non, mais il supporte très bien.
Non, mais ça peut être une explication, puisque aujourd'hui, il fait un peu plus frais. Et les mecs, ils se ressentent, ils se sentent un peu mieux.
Il va neiger demain.
Non, ça s'est passé. C'est pas prévu. Cyril, Pinot, Bardet, un nouveau tour pour eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Là, évidemment, pour le général. Encore que Romain Bardet n'est pas si loin que ça au général.
16e.
Hein. 16e, donc.
17e, mais à 17 minutes 03. Et Roland qui fait aussi, on en parle
exactement,
pas.
Exactement, Pierre Roland.
Roland qui fait un beau rapproché sur ses Pyrénées. Enfin, un rapproché au niveau des places, pas au niveau des écarts. Il est à 13, 16e à 13,57. Bardet à 17. Bon, on est,
à la limite, il va y avoir une petite guéguerre, Cyril, entre les Français pour le classement général.
Ouais, mais enfin.
En guise de ne pas avoir de guerre pour la première place avec Froome, on va peut-être avoir une guerre entre les Français et puis pour la deuxième.
Pour faire premier
place,
français, oui. Ça,
il va bien falloir se consoler sur quelque chose.
Ça fait 40 ans que je vois des courses pour faire premier français. Ce qui est important pour Pinot, pour Bardet, entre autres, hein, et peut-être pour Perrault.
Perrault, lui, ne s'est pas refait la cerise aujourd'hui.
Non, hein, on va avoir deux étapes qui vont être dures, mais où on peut rester planqué toute la journée. Au niveau du classement général, il devrait pas se passer grand chose. Et puis on va aller jusqu'à l'étape de repos. Et derrière, les Alpes vont arriver. C'est-à-dire qu'à peu près, on a 3 jours ou 4 jours pour vraiment, vraiment refaire les niveaux. Et là, on peut retrouver les Français à leur véritable niveau. Et surtout, sans plus de stress. Enfin, quand je dis plus de stress, plus de pression du classement général. Uniquement de dire, maintenant, on ouvre les vannes,
le
on attaque,
plus,
ça pète.
Hein. La pression non plus.
Tu disais hier, Cyril, aussi que tout se passait dans la tête. Et aujourd'hui, le fait de retrouver la bonne jambe va peut-être les inciter.
Tout se suit. Hein.
Ça va peut-être arranger encore un peu plus les jambes. Très bien, on verra ça donc à partir de demain et surtout à partir de la semaine prochaine. Dans les Alpes, nos petits Français, on espère qu'ils vont se refaire complètement la cerise et qu'on les verra à l'attaque dans les Alpes. Quelle heure est-il? Il est encore 19h48. On a encore quelques minutes à passer ensemble. On va parler de l'étape de demain et évidemment revenir sur les paris dans quelques instants. Toujours en direct du plateau de Baye avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui lui est dans la chaleur à Avignon. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour en direct du plateau de Baye, toujours en compagnie de Luc Leblanc, Thierry Bourguignon et de Cyril Guimard. Si vous voulez leur poser des questions, je vois que sur les réseaux ça se déchaîne concernant Guérin Thomas. Venez poser vos questions tout à l'heure au 32-16 après 20h avec Virginie Fulpin qui restera en compagnie de Thierry Bourguignon et de Luc Leblanc. Messieurs, on va évoquer l'étape de demain, donc étape pour les baroudeurs en direction de Rodez, me semble-t-il. J'ai pas mon livre sous les yeux.
C'est ça.
Rodez, donc entre Muret et Rodez. C'est une étape. Est-ce que c'est une étape de transition pour vous? C'est quand même assez casse-pâte quand même. Hein. Là, dans le Tarn et l'Aveyron, pour trouver des routes plates, il y en a pas beaucoup. Hein. Thierry.
Surtout avec la chaleur.
Ouais, parce que là on va retrouver la vraie chaleur. Hein, ouais, donc,
ça risque de coller à la roue. Hein. Mais les étapes de transition qui sont pas si relaxes que ça. Mais je pense que c'est une étape où on va voir une échappée partir d'entrée et aller au bout.
Ouais. Pour toi, c'est une étape pour une échappée.
On peut pas faire la bagarre, ce que Cyril n'aime pas.
Ouais. Non, mais ça dépend. C'est pas forcément une échappée qui peut partir de loin et arriver à Rodez.
Baroudeur, oui, mais bon.
Il faut savoir. Et attends, il faut quand même que tu saches quand même qu'il y a Sagan qui se bat avec.
Sagan est capable de prendre un coup et d'aller au bout.
Il n'y a qu'un sprint intermédiaire qui est au 92e kilomètre environ. Bon, il y a des petites bosselettes de 3e, 4e catégorie. Il y en a 3. Et après, tu as l'arrivée à Rodez. Peut-être que Greipel peut-être arriver à passer, et je vois mal comment peut-être l'équipe de Greg Pale va laisser partir un coup, sachant que les étapes...
Attends, on est au lendemain des étapes de Pyrénées quand même, est-ce qu'ils ont la même forme, moi je pense qu'ils vont se bagarrer pour...
Ils sont tous pareils, les coureurs, la condition elle est la même pour tout le monde, je veux dire, ils ont traversé les Pyrénées, ils étaient dans le groupe Eto, ils se sont pas mis non plus à l'arrache, voilà. Donc moi je pense que Greg Pale va quand même faire un maximum de course demain. Après, on va voir, il y a une petite bosse à environ 5-6 kilomètres de l'arrivée. Bon, elle n'a pas l'air terrible non plus. Sagan, il va vouloir faire le sprint, il va vouloir un petit peu agrandir son écart entre lui et puis Greipel. Moi, je vois plus un combat entre les sprinteurs demain.
Et donc,
je ne pense pas
au sprint, donc, pourquoi pas.
Écoute... Oui, pourquoi pas. Oui, je pense, moi.
On va parier tout de suite, hein, puisque tu vas nous donner tes noms. C'est l'heure des paris.
Les paris RMC Tour de France.
Et je crois que c'est Benji aujourd'hui. Oui,
c'est moi.
Il est là, Benjamin.
Salut, messieurs.
Salut, Benji.
Salut, Benji.
Alors, donc les
toujours
favoris.
Pareil le classement.
Toujours pareil.
C'est Lucho marrant, il posait beaucoup moins la question les années précédentes. Hein.
Et Lucho, c'est impressionnant. Tu sais quand il est en tête. Hein.
Ah oui, ça, c'est... On peut pas dire
qu'il est en tête. Lucho en jaune, Bourgui en vert, Virginie Fulpin à poids.
Et au général, je suis loin.
Donne les cotes.
Alors les principaux favoris pour demain.
Les cotes, Lucho a raison, les bookmakers suivent le maillot jaune des paris puisque c'est Peter Sagan qui est favori de l'étape à 3,90, derrière Degen Kolb à 10, Greg Van Avermaet à 15 et Stibar à 15. Moi je vais tenter une cote énorme, je pense qu'il va finir par être récompensé, je vais le tenter plusieurs fois jusqu'à la fin du tour, c'est Dan Martin, la cote est à 100.
Dan Martin, donc, nous dit notre ami Benji. Messieurs, on va commencer par Cyril, tiens.
Oui, moi j'ai deux noms à vous proposer, mais je vais en prendre qu'un seul.
Tu peux faire 5 et 5, hein, Cyril. Hein.
Moi j'aurais mis Boasson-Hagen ou Cumming.
Cumming.
Tu peux faire 5 euros sur Boasson-Hagen et 5 euros sur Cumming.
Eh ben, je fais 5 et 5, allez.
Ok.
Moi, je vais donner Degen Kolb.
D'accord.
John Degen Kolb. Thierry.
Ouais, je vais faire 5 euros sur Sagan et 5 euros sur Fédrigo.
Pierrick Fédrigo, qui a déjà tenté l'autre jour.
Ouais, mais comme il était un peu vexé, là, j'ai l'impression qu'il va nous remettre ça et c'est le genre d'étape qu'il affectionne. Une année, il m'avait fait prendre le maillot jaune, je vous rappelle, à Gap.
Il nous reste donc le porteur du maillot jaune qui ne s'est pas encore exprimé et la porteuse du maillot de meilleure grimpeuse.
Alors écoute.
Non. D'abord.
Oui, c'est vrai, Virginie.
Notre grimpeuse.
Virginie. C'est d'abord moi, d'accord. Eh bien, moi, je vais mettre Maïka.
Maïka.
Oui.
Rafale.
Oui, c'est bien.
Rafale de son
père. Oui, je sais qu'elle a gagné il y a deux jours, mais bon, c'est pas grave.
C'est bien de vouloir perdre.
Il y a deux jours, c'était hier.
Mais je me projette dans l'étape de demain, voilà, ça va pas bien.
Mais il récupère très vite.
Je suis pas inquiète pour ça.
Eh ben, moi, contrairement à vous, ce qui m'a réussi l'autre jour, je vais refaire pareil. Puisque vous n'êtes pas cocorico du tout, de toute façon.
Un petit français, mais oui, mais pourquoi pas.
Et moi, je vais mettre Cocard.
Et il battra
le blanc qu'il y a, dis donc.
Ah non, mais il va battre tous les.
Ah, il y a un blanc, j'ai dit Cocard, il y a un blanc.
Non, mais effectivement.
Mais non, c'est un bleu, un Cocard.
Il peut passer les bosselettes et s'il se retrouve avec peu de sprinteurs, il peut faire le coup. Il peut faire le coup et Robcard a bien besoin d'une victoire d'étape, même si Pierre Roland a relancé la machine verte. Hein.
C'est une étape pour lui demain, Cocard. Et je pense que Robcard, ils ont besoin de se montrer, donc voilà.
Voilà donc le choix du maillot jaune. On verra s'il conserve son maillot demain. Mais
de toute façon, je vais le conserver quand même.
De toute façon, pour te prendre le maillot, il n'y a qu'un coup à faire, c'est tenter un garçon avec une cote incroyable.
Fédrigo,
et que ça passe.
Elle a combien,
Fédrigo, elle est à 100.
Et voilà.
Ah ben voilà, Thierry. Très bien. Messieurs Leblanc et Bourguignon, vous restez jusqu'à 20h30 avec la grimpeuse.
Ah oui,
avec la fille à pois, la fille à pois rouge.
Voilà, elle est là.
J'aimerais bien la voir.
Virginie, je vous souhaite une bonne soirée.
Je vais prendre l'air un petit peu, deux minutes, Virginie.
Oui, 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 il n'y a pas de problème. C'est-à-dire tu as 5 minutes à peu près. Voilà, Lucho et Bourgui restent avec moi donc, et avec vous, surtout au 32-16 et sur Twitter. Hashtag RMC Live à 20h30. Jimmy Vico sera notre invité, le tout nouveau co-recordman d'Europe du 100 mètres, à la veille du meeting de Monaco où il va défier Justin Gatlin. On ira à Sousse, en Tunisie, 3 semaines après l'attentat meurtrier. C'est là que l'OM va jouer un match de préparation samedi. Les Marseillais sont arrivés. Et puis on va parler économie avec Pascal Perry. Le PSG est arrivé aux États-Unis pour conquérir le marché américain. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.